nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, les états modifiés de conscience peuvent se déclencher pendant le sommeil, lors d'hypnose, de séances de méditation ou encore chez des sujets qui font l'expérience de mort imminente. Des domaines qui touchent parfois au paranormal et qui a longtemps rebuté les scientifiques. Mais depuis quelques années, les états modifiés de conscience sont étudiés par les chercheurs avec beaucoup de sérieux pour justement fournir un éclairage à des phénomènes qui, il faut bien le dire, paraissent dans certains cas bien mystérieux. Les états modifiés de conscience, voilà donc un sujet passionnant qui fait l'objet d'un colloque organisé à l'Institut de France le 26 mars 2012, colloque ouvert au public et que les trois principaux instigateurs viennent nous présenter, Bérénice Tournafond, François Gros et Pierre Buzère. Bonjour.
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 Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Bérénice Tournafond, vous êtes présidente de l'association Être humain. Vous organisez régulièrement des colloques interdisciplinaires à l'Institut de France, toujours axés sur une meilleure compréhension de l'homme à travers ses comportements en société et à travers ses émotions. François Gros, vous êtes biologiste, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences. Pierre Buzère, vous êtes neurobiologiste et membre de l'Académie des sciences et vous participez tous les deux activement à ces colloques organisés par l'association Être humain. Première question qui s'adresse à tous les trois, et bien sûr vous êtes invités à prendre la parole dès que vous le souhaitez. Que regroupe-t-on sous le terme état modifié de conscience, qui est un terme assez vaste, Pierre Buzère?
Eh bien, je pense que les allusions de définition que vous avez données tout à l'heure sont assez loin de nos préoccupations actuelles. C'est-à-dire que vous avez parlé, vous avez esquissé l'idée de phénomènes paranormaux. Eh bien, c'est justement ceux dont nous n'allons pas parler. Voilà. Car il existe un nombre suffisamment grand d'états modifiés de conscience qui sont parfaitement dans la ligne scientifique ou clinique et qui méritent déjà qu'on s'y arrête et qu'on s'y attache.
Alors lesquels, pour donner justement quelques exemples à nos auditeurs?
Nous pourrions citer les états d'hallucination, par exemple, les hallucinations. Nous avons les pertes brèves de conscience, alors ce qu'on appelle perdre la connaissance ou la conscience. Ce sont des mots qui sont dans la bouche de tout le monde, un peu interchangeables, mais en réalité ce n'est pas tout à fait cela. Et d'autre part, nous avons donc des hallucinations, je disais, nous avons les comas. Nous avons également des modifications qui ne sont pas pathologiques, comme des états hypnotiques. Et puis finalement aussi des états de méditation, et qui sont également importants dans cette espèce de catalogue des états modifiés de conscience.
Par hallucination et état hypnotique, vous faites référence à des états sous drogue
ou... Absolument pas nécessairement.
D'accord.
Il est évident que si l'on voulait être complet, on devrait faire un tableau exactement des effets des drogues, toute une pharmacologie des drogues, mais ce n'est pas non plus notre intention. Les hallucinations sont des phénomènes pathologiques, cliniques, qui sont souvent graves, souvent ne le sont pas. Le coma, inutile que j'insiste pour l'instant, c'est toujours grave. Et puis les états hypnotiques ne sont absolument pas des états anormaux, ce sont des états provoqués par un opérateur, un hypnotiseur, comme on l'appelle. Et puis il existe d'autres états de relaxation qui n'exigent pas un opérateur, qui se font automatiquement, ce qu'on le fait soi-même, ces états de relaxation qui existent également.
Alors, merci, comme ça nous avons recentré ces états modifiés de conscience dans le cadre de ce colloque. Est-ce que ce sont encore des choses bien mystérieuses pour les scientifiques ou justement on commence à avancer dans ce domaine? François Gros?
Oui, d'abord, une remarque si vous voulez. On pourrait se demander pourquoi on commence ce cycle de conférences en abordant les états modifiés de la conscience et non pas une dissertation sur la conscience. Il y a précisément parce que les sciences aujourd'hui, notamment celles que représente mon confrère Pierre Buzère, les neurosciences et la clinique d'une certaine façon, sont capables maintenant d'apporter des précisions très intéressantes à ces états en quelque sorte liminaires. Alors je crois que Pierre Buzère l'a bien indiqué, il y a plusieurs formes de modification de conscience, mais Ce qui est important, c'est de dire qu'aujourd'hui, les scientifiques disposent de méthodes qui n'existaient pas autrefois, en particulier celles qui reposent sur l'imagerie, mais il y en a aussi beaucoup d'autres, des méthodes, disons, de type électrophysiologique, qui permettent de voir quel est le niveau d'activité cérébrale dans telle ou telle, disons, situation, et en particulier quelles sont les aires cérébrales qui peuvent s'allumer dans telle ou telle sollicitation, par exemple, du monde extérieur.
Bérénice Tournafond, donc ce colloque s'intitule « Les états modifiés de conscience » et en sous-titre « Pourquoi et comment les sciences s'intéressent-elles à ces états ? » Quelles sont les sciences auxquelles vous faites référence ?
Alors, les sciences auxquelles on fait référence, ce sont tout autant les sciences humaines, puisqu'il y a une intervention de Jean Béchler, d'ailleurs, qui est la première intervention de la matinée, dont le titre est le suivant « Pourquoi et comment les sciences humaines s'intéressent-elles à ces états modifiés de conscience ?» Et également les sciences dures qui seront traitées par Pierre Buzard.
Également la présence de François Théret qui est juriste. Alors
oui.
La part du juriste est aussi intéressante dans ce domaine-là qui est un peu particulier.
Oui, tout à fait, parce que les états modifiés de conscience ont des conséquences importantes dans la vie pratique. Ça nous concerne tous, par exemple les pertes de conscience sur la route. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler d'état modifié de conscience dans ces cas-là et comment les définir ? Quelles doivent être les conséquences juridiques de ces états ? D'autres exemples, je ne sais pas, François
Gros.
Oui, l'exemple que vous avez cité est malheureusement assez commun et courant, et vous avez raison de le dire. Mais il y a, d'une façon malheureusement plus sérieuse, des états plus ou moins hallucinatoires, mais je me tourne vers mon confrère, peut-être est-ce un terme inapproprié, qui peuvent parfois justifier en partie certains actes, disons, pseudo-criminels. C'est quelque chose qui, évidemment, est connu de longue date, mais que l'on peut préciser aujourd'hui avec beaucoup plus de soin quand on veut établir le degré de responsabilité.
Oui, j'allais dire, vous faites référence à la notion de responsable ou irresponsable,
oui.
Pierre Buzard.
Oui, la clinique, alors que la science pure, en quelque sorte, a été loin de pouvoir, de s'intéresser même, aux états modifiés de conscience, parce qu'elle n'avait pas de possibilité d'explication, et il est fréquent que la science laisse de côté ce qu'elle ne peut pas expliquer, c'est pas nouveau, en tout cas dans ce domaine. En revanche, la clinique connaît depuis longtemps ce que nous appelons maintenant des états modifiés de conscience. Par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, et François Gros aussi, les hallucinations sont des exemples très variés. Il y a des hallucinations provoquées par des drogues, il y a des hallucinations qui sont produites intérieurement sans qu'il y ait pour autant une action extérieure précise, et ainsi de suite, qui correspondent à des états mentaux manifestement pathologiques, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, je ne parle pas des comas, on sait bien que c'est également d'une grande importance, mais je reparlais de l'hypnose aussi, et les états brefs, les modifications brèves, les pertes brèves de conscience qui peuvent arriver à nous tous, à chacun d'entre nous, sans que pour autant il y ait un grand caractère de gravité, mais qui peuvent avoir des retentissements juridiques, par exemple, sur des accidents, des choses de ce genre. Donc il y a tout un ensemble qui est à la fois scientifique, clinique, qui touche aux sciences des hommes, bien entendu, comme l'a dit Bérénice tout à l'heure, et également au juridique.
C'est alors,
ça qui est important.
Effectivement, vous nous expliquez avec beaucoup de détails tout ce qui pourrait se porter à ces états hypnotiques et aux hallucinations. Dans le cadre de la méditation, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments supplémentaires sur ces états modifiés de conscience dans le cadre de la méditation ?
Bien, c'est une longue histoire, mais c'est une histoire difficile et on a peu de données encore. Mais il est curieux de constater que dans beaucoup de religions, car je parle là des religions, dans beaucoup de religions, les états méditatifs sont essentiellement d'abord dictés par des postures physiques, souvent symétriques d'ailleurs. La prière est une position essentiellement symétrique, et ça n'a l'air de rien de parler de la posture, mais en réalité, ces postures ont souvent un rôle dans l'installation de la méditation. Ça a été rapporté par beaucoup de mystiques, en quelque sorte. Et alors, à côté de cela, il y a des états méditatifs qui ne sont pas métaphysiques, mais qui simplement induisent un certain état de conscience libre, enfin, comme on peut le décrire, et qui sont provoqués, par exemple, par simplement le fait de s'asseoir dans un fauteuil, de tenir les bras du fauteuil. C'est le training autogène de choses. C'est une technique de méditation qui est faite. Vous asseyez dans un fauteuil, vous tenez les bras du fauteuil, vous restez tranquille, vous sentez lentement s'installer, selon votre structure personnelle, vous sentez lentement un certain état de méditation qui s'installe.
Cela nécessite, j'imagine, beaucoup de pratique.
Oui, il faut le faire, il faut le faire. Ça ne vient pas de la première fois.
Un autre élément qui intéressera certainement nos auditeurs, en tout cas je l'espère, et surtout le public qui viendra le 26 mars 2012 à ce colloque sur les états modifiés de conscience, ce sujet porte sur le coma. Là aussi, les états modifiés de conscience et le coma. Est-ce qu'on peut avancer maintenant et savoir si une personne qui est dans un coma profond peut présenter des signes particuliers ? François Gros, peut-être.
Je pense que mon confrère est beaucoup mieux armé que moi pour y répondre. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir justement si le coma est profond, si on peut définir en quelque sorte les limites de la vie passée, c'est-à-dire la mort, en fonction précisément de l'état électrophysiologique du cerveau. Et je crois que c'est mon confrère qui m'a appris précisément que il peut y avoir un électroencéphalogramme plat, et pour autant que l'intérieur du cerveau peut continuer pendant un certain temps, tout au moins à fonctionner, pour autant qu'une certaine circulation, une certaine oxygénation perdure. Mais il serait beaucoup mieux, évidemment, indiqué que moi pour répondre à votre question.
Alors, Pierre Buzer.
Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'a dit François Gros, c'était parfaitement exact. Le problème des comas, c'est essentiellement une grande prudence. Avant de déclarer qu'un coma est définitif, de plus en plus de cliniciens hésitent en quelque sorte ou sont prudents. Au fur et à mesure que les méthodes de clinique s'améliorent, on arrive actuellement à prolonger l'état de comateux d'une certaine façon où autrefois, on aurait arrêté toutes les machines, on aurait tout arrêté, alors que maintenant on continue et l'expérience prouve que de temps en temps, on a de la chance. Le malade surtout, sort de son coma. Parce qu'autrefois, on avait à la fois peut-être pas toujours les appareils nécessaires, et surtout, on n'avait peut-être pas non plus la prudence que déploient actuellement les cliniciens vis-à-vis du coma. Ils vont jusque très loin, jusqu'à souvent avoir le succès d'une sortie du coma. Alors qu'avant, on n'aurait pas fait. On aurait tout arrêté.
Et jusqu'à présent, je crois qu'on demande à la famille de savoir si on débranche une personne en coma profond.
Bien sûr, mais la famille ne peut pas décider du cas clinique, vous comprenez. Il y a aussi l'imagerie. Enfin, ce n'est pas tellement facile. On a les techniques de marqueurs électrophysiologiques que François Gros a citées. C'est effectivement un indice, mais c'est un indice très imparfait.
Alors, la question de mort cérébrale, finalement, est aussi remise en cause ?
Elle n'est pas vraiment remise en cause, mais on est plus prudent, beaucoup plus prudent et de plus en plus prudent pour déclarer qu'il y a mort cérébrale.
Bérénice Tournafonce, vous souhaitiez rajouter un élément ?
Oui, il y a également, justement, dans le cas de personnes qui sont dans le coma, des témoignages parfois assez étonnants, puisque ce sont des personnes qui font état d'expériences qu'elles ont pu vivre pendant ce coma et qui posent un certain nombre de questions assez importantes sur le fonctionnement justement du cerveau, sur la conscience, sa nature.
Vous faites référence, alors excusez-moi de reposer le terme, vous faites référence aux expériences de mort imminente par exemple
ou par exemple, enfin le terme n'est pas juste, comme
le terme,
le dit
oui.
D'ailleurs très bien le professeur Buzer, puisqu'il n'y a pas forcément de mort imminente ni de mort tout court. Mais je fais allusion à ça, notamment au livre du docteur Jordan qui s'intitule « Deadline », qu'on a invité pour participer à la discussion de la deuxième partie de la matinée pour évoquer avec lui quelles sont les recherches qui sont faites aussi dans ce domaine et quels éléments on a sur ces états modifiés de conscience à l'occasion d'un coma.
Alors Pierre Buzer, justement, c'est le sujet qui touche un peu au domaine du paranormal.
C'est ça, nous sommes là, exactement, et Bérénice a eu raison, malgré tout, de poser ce problème que les anglo-saxons appelaient « near-death experience », l'expérience proche de la mort, mais non pas de la mort imminente. C'est pourquoi je ne réagis pas bien devant le terme français, parce que c'est une expérience proche de la mort, c'est « near ». C'est pas avant la mort. Alors, c'est une expérience, effectivement, où le malade a des hallucinations. Les gens disent que ce n'est pas des hallucinations, mais si, ce sont des hallucinations probables. En tout cas, ils ont des visions absolument paranormales, en quelque sorte, d'éclairage, de sortie de tunnel, etc. C'est la description, du point de vue descriptif, c'est assez complexe et assez prenant de lire ces descriptions. Mais après tout, à partir de là, on peut prendre deux chemins. Ou bien on prend le chemin de la science, en quelque sorte, et on considère que probablement c'est une remise en route des circuits sous-corticaux qui étaient en train de dormir à moitié mais qui n'étaient pas morts, et que cette remise en route entraîne des stimulations des structures cérébrales qui créent des hallucinations. Ça, c'est pas du tout exclu. Et il y a l'autre voie qui n'est pas une voie scientifique, mais qui est une voie métaphysique, en quelque sorte, si on peut l'appeler, bien que les auteurs ne soient pas nécessairement métaphysiciens. Simplement, ils imaginent que l'esprit sort du cerveau.
Je vais vous titiller encore dans ce domaine-là, Pierre Buzer, dans le domaine
prie,
un
madame.
Peu paranormal, puisque souvent, ces personnes, lorsqu'elles témoignent, donc appelons-les comme ça, EMI, expérience de mort imminente, même si le terme n'est pas forcément valable, elles font aussi parfois état d'expérience, et là, je crois que vous allez faire un bond, elles font expérience de sortie du corps. Et avec des témoignages assez particuliers où une personne qui est dans un coma ou qui se fait opérer sort de son corps, je vous le dis comme ça, et après, par ces témoignages, effectivement, il s'est passé quelque chose puisqu'elle peut faire état de ce qui s'est passé aux étages supérieurs de la salle d'opération.
Madame, nous ne le prouverons jamais. Simplement, ce qui se passe, rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez eu des cauchemars. Certaines personnes ont des cauchemars qui ne sont pas loin de ce genre, de grimper au plafond et des choses de ce genre. Donc, moi, ça ne m'étonne absolument pas. Le sujet humain est capable d'imaginer une quantité de choses.
De là, entendre une conversation qu'il n'est pas censé avoir entendue et qu'il peut retracer.
Je n'exclus absolument rien et je ne pense que rien n'est à exclure.
Oui. François Gros, sur ce point, peut-être avez-vous aussi votre sentiment sur la question.
Moi, je suis beaucoup moins versé dans la neurophysiologie que Pierre Buzet, mais j'étais en train de penser à la définition que donne le petit Larousse de la conscience, à savoir que c'est une perception, une connaissance plus ou moins précise de son état d'existence et de l'existence du monde extérieur. Bien, le plus ou moins précis, évidemment, recouvre pratiquement tout ce que nous venons de dire. Il est certain que, comme l'a dit Pierre Buzet, maintenant qu'on sait quels sont les paramètres, si je puis dire, neuronaux, synaptiques, etc., les potentialités du cerveau humain sont certainement énormes. Nous sommes encore très très loin de les mesurer, de les comprendre. Alors, il y aura peut-être de nouvelles machines qui nous permettront évidemment d'enregistrer soit des ondes, soit des courants, etc. Pour l'instant, je ne sais pas, mais je crois qu'on n'en est pas tout à fait là.
Pierre Buzer.
La remarque de François Gros m'emmène à dire que pour la conscience, d'une façon plus générale, nous n'en avons pas parlé du tout, même entre nous, la conscience, maintenant, on est d'accord pour concevoir deux niveaux de conscience. Il y a un niveau que l'on appelle primaire, et qui est la conscience qui existe probablement chez un certain nombre d'animaux. Probablement les oiseaux et les mammifères, à des degrés différents, ont une conscience perceptive, en quelque sorte, savent percevoir, en quelque sorte, et ont une expérience subjective. Nous n'en avons pas la preuve, mais c'est une hypothèse qui tient la route, en quelque sorte. Et l'autre conscience, que nous appelons la métaconscience, ou l'autoconscience, c'est celle dont nous parlons, c'est la conscience humaine. C'est-à-dire que nous avons une conscience primaire également. Nous ne sommes pas toujours en train de nous surveiller, en train de penser. Parce que l'autoconscience, c'est quelque chose qui est, nous rendons compte que nous pensons.
Nous avons conscience d'être conscients.
Que nous sommes conscients d'être conscients, métaconscience. On utilise toute une série de termes un peu bizarres pour ça, mais c'est comme ça. La conscience dont nous parlons, et en particulier dans le cas des comateux, c'est manifestement un cas de conscience extrême, qui est un mécanisme extrêmement compliqué, si bien que tant que nous n'en saurons pas plus, moi personnellement, ma position serait d'être extrêmement réservé, prudent, et surtout de ne pas sortir du domaine scientifique.
Alors voilà pour présenter ce colloque, on aura encore beaucoup de choses à dire, mais il faut aussi laisser la place aux intervenants. Nous retransmettrons les interventions des personnes qui seront présentes autour de ce colloque. J'aimerais que vous nous disiez juste quelques mots, Bérénice, sur les personnes qui vont intervenir, donc Monsieur Buzer, Monsieur Gros, Monsieur Théré, Monsieur Béchler, et puis également une discussion. Peut-être avez-vous déjà des noms à nous présenter.
Oui, je vous parlais du docteur Jordan tout à l'heure, qui est médecin. Il y aura également Bertrand Mehust, qui est un sociologue historien qui a fait sa thèse sur la médiumnité. Voilà, c'est les deux seuls noms que je peux vous citer avec assurance.
Avec assurance. Voilà.
Mais il y aura d'autres chercheurs, il y a déjà beaucoup d'inscrits et de gens qui vont participer à cette discussion qui va durer relativement longtemps tout de même pour Voilà, toute la deuxième partie de la matinée, on va avoir une heure et demie de débat, de discussion sur ces sujets pour essayer de faire un point et de définir quels seront les thèmes des prochains colloques sur ce sujet, la conscience qui est très vaste et, comme vous l'avez vu, assez complexe aussi, puisque...
Complexe et passionnant. Alors, ce sera une matinée qui sera très riche. Je rappelle juste l'aspect pratique. Donc, un colloque organisé le 26 mars 2012, ici à l'Institut de France, ouvert au public sous réserve de s'inscrire sur le site internet hommecontemporain.org, qui est le site internet de l'association Être Humain, qui se déroule le matin à 8h30. Donc, il faut se lever tôt.
Voilà.
Et jusqu'à 13h. Et donc, les deux autres thèmes à venir, même s'ils restent encore à définir, porteraient sur la nature de la conscience et puis un troisième sur la science de la conscience.
C'est-à-dire qu'il y a une séance qui est réservée au problème des états modifiés de conscience vu du point de vue des sciences humaines et un autre plutôt où on reprendra une partie des problèmes posés par les sciences et cliniques aussi. Et peut-être une quatrième séance, n'est-ce pas ? On pourrait parler des problèmes de la conscience à ce moment, des problèmes théoriques et généraux. Par la conscience.
Et toujours dans une démarche interdisciplinaire, puisque c'est aussi des moteurs de l'organisation des colloques que vous réalisez, Bérénice Tournafond. Merci à tous les trois d'être venus nous présenter ce colloque. J'espère qu'il y aura du monde. Donc je rappelle l'adresse du site internet où on peut s'inscrire pour assister à ce colloque, hommecontemporain.org, un colloque organisé le 26 mars 2012 à l'Institut de France, 23 Quai Conti, dans le 6e. Merci à tous les trois et à bientôt pour une prochaine émission.
Merci.